Voilà, bonjour à tous. On veut rendre grâce. Père Céleste, merci de révéler cette parole vivante, cette parole de vie dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, éclaire nos intelligences, notre raison aussi. Merci de pouvoir trouver un appui, cette colonne de la vérité qui est ta parole. Merci de nous accompagner dans la compréhension, la révélation de cette parole. Merci parce qu'elle est puissance de vie pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, pour Noël, on avait commencé à traverser ce thème de l'incarnation, la parole faite chair. J'aurais pu reprendre le texte de Laurence de ce matin. Ce que nos mains, nos yeux ont vu, ce qu'on a touché, contemplé concernant la parole de vie. C'est toujours étonnant de voir comment une parole peut changer une destinée, une vie, un quotidien. 50 ans, une parole résonne dans ma vie. Je suis celui qui t'a créé. Tout le bazar, tous les livres que tu lis en ce moment, brûle-les. Une voix qui venait de je ne sais d'où, et qui résonnait dans ma tête, dans mon cœur, et puis on se dit, waouh ! Il y a un monde spirituel. Celui que j'avais expérimenté avant était assez inquiétant, assez sombre, tiré vers le bas, et puis là, tout d'un coup, waouh, il y a un Dieu qui m'a créé, qui est personnel, qui me parle, qui s'adresse à moi, qui dit, écoute ma parole, choisis ma parole. Et ça a été parti pour 50 ans d'une aventure extraordinaire qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. On a le privilège avec Jean-Marc, voilà, au travers de la prédication, c'est vrai, de, si ce n'est tous les 15 jours ou toutes les semaines, avec les réunions de prière du mercredi, de s'interroger, de se questionner en permanence sur voilà, comment cette parole de Dieu peut agir dans ma vie, comment elle peut être une source, une nourriture pour moi, mais comment elle peut l'être pour d'autres. On a vu il y a deux semaines, la parole a été faite chair, proto-évangile, évangile de Jean. Dans Matthieu 4, tu te nourriras, c'est pas seulement de pain que tu te nourriras, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un texte nouveau, non ? 2000 ans. Un texte écrit par Moïse dans le Deutéronome. Un texte qui a 3500 ans. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire une parole vivante. On est dedans et au-delà d'une parole imprimée, d'une parole écrite. On a vu dans Hébreux que cette parole était une parole créatrice. Il y a une jeune femme, il y a quelques années, je crois qu'elle est suédoise, Greta Thunberg, c'est ça, qui a essayé d'alerter les puissants, les moins puissants, la planète sur le désordre écologique. Et puis au bout de quelques années, elle a eu une phrase célèbre qui est devenue une chanson. Bla, bla, bla. L'air de dire, voilà, les nations, les forums, les rencontres, les numéro 1, numéro 2, 10, 15, 16, 20. Rencontre, elle fait blablabla. Bla, bla. C'est quoi une parole blablabla bla, bla. Parole que, voilà. J'ai deux appareils, mais les paroles ne restent pas coincées là. Ça traverse quand même. Est-ce que ça descend? Il y a deux semaines, j'avais pris cette image de sachet de thé. Hein. J'avais sorti mon bol, mon sachet de thé, puis, et on voyait que l'eau qui était transparente, quand le thé infusait, bah, l'eau elle est colorée. Comment est-ce que la parole colore ma vie depuis le bout de mes pieds jusque dans mes cheveux? C'est ça l'incarnation, hein, une parole devenue chère. J'aimerais voir juste avec vous, vous rappeler, je ne sais plus si on l'avait lu l'autre fois, dans le prophète Amos, au chapitre 8 et le verset 11. Voilà. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, les paroles de Dieu. Est-ce que prière pour le monde, c'est Seigneur, augmente la faim et la soif d'un contact, d'une relation spirituelle avec toi au travers de l'Écriture. Tout ce livre, cette parole est éternelle. On aura beau essayer de la gommer, mettre du blanco, mettre des correcteurs sur l'ordinateur pour tout effacer. Il y a un processus, un phénomène qui fait que hop, elle réapparaît toujours. L'URSS, 20e siècle, on a essayé de la gommer. Chine, à peu près pareil. Hein. Beaucoup de régimes ont essayé de gommer cette parole. Je lisais un témoignage ces jours-ci d'un missionnaire chinois. Il s'est fait attaquer avec une malle de 1000 Bibles. Et les brigands ont pris les 1000 Bibles. Des années après, dans un des coins de la Chine, il y avait des Bibles en chinois qui circulaient et il y avait une église qui existait sans le secours d'aucun missionnaire, d'aucune main. C'est-à-dire que des hommes, des femmes, les bandits avaient distribué les Bibles autour d'eux, je ne sais pas, ils ne savaient pas quoi faire, ils les ont mis en tas, les gens ont pioché dedans. Des années après, il y avait une église, les gens avaient lu toute l'écriture et ils s'étaient organisés eux-mêmes et avec l'aide du Christ et de l'Esprit, eh bien, voilà. Ce missionnaire a eu le retour que ces Bibles qu'il lui avait volées avaient accompli leur œuvre. C'est un peu précaire ici. Psaume 119, verset 105, sans doute un des plus connus. Presque en fermant les yeux, on devrait pouvoir le mémoriser. C'est en plein milieu du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il a été question ce matin d'être accompagné dans le changement de nos vies, dans une nouvelle approche, une nouvelle écoute de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Parfois, c'est quoi le chemin? La parole de Dieu peut nous aider à choisir. C'est pas tant à trouver un chemin qu'à faire un choix. Un choix de découverte, un choix de fidélité, un choix d'apprentissage. Seigneur, apprends-moi ce que c'est qu'une parole vivante. Avoir une réflexion, une méditation, une action, selon l'Écriture. On a un texte un peu étrange dans le livre du prophète Ézéchiel. On va le lire et puis on verra, Ézéchiel, c'est à peu près il y a 2500 ans, puis on verra qu'il n'est pas le seul à avoir vécu cette expérience. On reprend dans Ézéchiel au chapitre 2, le verset 1 et 2. Ézéchiel 2, 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entrant en moi me fit tenir sur mes pieds j'entendis celui qui me parlait. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Seigneur, je veux me tenir sur mes pieds, droit devant toi, et je veux entendre ta parole. L'Esprit entre en moi. Comment est-ce qu'on peut avoir cette invitation à l'Esprit Saint pour lui dire « Accompagne-moi dans la révélation de ta parole. » L'Esprit entre en moi, me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Comme disait Jean-Marc, hein, on disait pareil, hein, pour mieux entendre. Comment est-ce que je peux mieux entendre la voix de l'Esprit ? C'est pas quelque chose de mystique. Hein. Les gens mystiques entendent des choses dans leur tête. Ça m'arrive aussi, c'est pas toujours fiable. Avant d'entendre la voix du Christ par le Saint-Esprit et au travers de l'Écriture. 90% de ce que j'ai vécu de choses spirituelles s'appuie sur l'Écriture. Peut-être 10% voilà, de paroles vivantes, de paroles glanées ici et là, de paroles directement insufflées, inspirées. Tu entendras la parole derrière toi qui dit « C'est ça le chemin devant toi, avance, prends ce chemin-là. » Verset 8. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche, mange ce que je te donnerai. » Je regardais, voici, une main était étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Le livre qui est tombé. L'université de la parole. Je regardais, voici, une main était étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit dedans et en dehors. Tout le livre était écrit. Il y avait des lamentations, des plaintes, des gémissements, y était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Puis il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, dis-leur mes paroles, car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu as envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton cœur pour que tu t'opposes à leur cœur. Verset 10, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Il me semble que c'était l'essentiel des paroles inspirées de ce matin. Et si 2024 était l'année d'une nouvelle écoute. Amener mes appareils en réparation ? En entretien, pour qu'elle soit tout le temps opérationnelle. Je dois téléphoner dans la semaine qui vient. Voilà, tous les 6 mois, il faut vérifier que la technique, que tout soit bien. Est-ce que régulièrement, je fais une vérification de ma capacité d'écoute ? Tiens-toi debout sur tes pieds. Tiens-toi droit et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi, me fit tenir sur mes pieds, j'entendis celui qui me parlait. Mange. Mange ce petit livre. Là, le texte est intéressant parce qu'il dit « Il fut doux comme du miel ». Comment est-ce que toute l'écriture que je peux goûter, manger, peut devenir dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon être entier, doux comme du miel? Ça fait presque 20 ans, moi je mange du miel tous les matins. C'est un produit extraordinaire. On s'en servait pour les plaies, pour... Si vous avez la voix enrouée, que vous n'arrivez pas à parler. Du citron, du miel, du rhum, pas trop, avec modération. Est-ce qu'on peut manger l'écriture? Est-ce que l'écriture peut devenir chair? C'est-à-dire être plus que de l'imprimerie. Peut devenir une révélation de Dieu en esprit et en vérité. Souvent Catherine me dit, ouais, pour toi c'est simple. J'ai, bah, moi je n'ai plus rien, c'est comme ça depuis le début, ça fait 50 ans qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'instantané, de précieux, d'extraordinaire qui se passe. Elle dit, moi c'est pas pareil. Voilà. Tous les matins, elle lit, elle écrit, elle... Et puis, c'est plus difficile à mâcher, à faire descendre. Voilà, c'est vrai que voilà, les expériences sont diverses. Voilà, pour moi, il y a toujours eu comme une immédiateté de l'écriture, avec aussi le poids de responsabilité qui va avec, et de respect. Et de se dire, voilà, c'est écrit. C'est bien, mais est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu vas agir avec ça? On prend encore un texte dans l'Apocalypse. Du début jusqu'à la fin, il est question de notre relation à l'Écriture. Apocalypse, chapitre 10. Un autre prophète, l'apôtre Jean, qui a vécu une expérience particulière par rapport à l'Écriture. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Seul ce qu'ont dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. » L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, jura par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé le ciel, tout ce qui s'y trouve, la terre, tout ce qui s'y trouve, la mer, tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous sommes encore dans le contenu de ce texte prophétique. Je me languis du jour où l'ange va dire le mystère de Dieu est accompli. Parce que les choses seront dévoilées. L'Apocalypse, c'est comme une pièce de théâtre quand on ouvre le rideau et que tous les artistes apparaissent. Puis il se passe quelque chose. Un rideau a été ouvert, celui du temple de Jérusalem. Il a été déchiré. Depuis, on a accès, au travers du sang de Jésus, à cette présence du Père céleste, du Dieu qui règne dans les cieux. Un jour, un ange extraordinaire va crier « Le mystère de Dieu est accompli ». Est-ce que c'est proche ? Est-ce que c'est... Peu importe. Pour être sûr que Jean n'oublie pas ces choses, il lui est dit « Prends le livre et avale-le, mange-le. » Je ne serais pas plus avancé de grignoter ce livre ou de grignoter celui-là. Ça fait un peu beaucoup. S'il était en sucre ou en pâte d'amande, ou en, bon, après c'est dangereux pour la santé. C'est une image, c'est un symbole. Mais est-ce que nous sommes prêts dans notre vie à prendre du temps pour devenir familiers avec l'écriture, au-delà de l'imprimerie? Il y a des textes qu'on peut mémoriser. Il y a des méthodes pour ça. Il y a des gens qui ont des mémoires idéales. Ils lisent, ils retiennent. Même s'ils lisent le bottin téléphonique, ils le mémorisent et 10 ans après, la page qu'ils ont lue, tout d'un coup, bah, ils s'en rappellent encore. Comme dit Jean-Marc, moi j'ai beaucoup de couleurs, et puis c'est vrai que alors, il y a des livres, depuis 40 et quelques années, 45 ans, j'ai mémorisé, je sais que dans tel livre, en haut de la page à gauche, il y a tel texte, au milieu de la page à droite, il y a tel texte, donc je peux faire des recherches rapides. Parfois ça marche moins bien. Mais voilà, c'est bien d'avoir... C'est pour ça que je tiens... Alors ma Bible part un peu en pillot, mais... Voilà, c'est au-delà du texte. Comment ces paroles de vie peuvent être rangées dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, pour pouvoir faire une recherche rapide et puis les retrouver. Notre rapport à l'écriture est tout un état d'esprit, de respect, de confiance, de foi, de silence. On n'est pas toujours obligé de lire l'écriture et de faire blablabla, blablabla. Comment est-ce que je peux la lire et puis dire, ben, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais peut-être que demain, la semaine prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Depuis que je suis à la retraite, j'ai repris tout ce qui concerne l'eschatologie, les temps anciens, puis en reprenant mes cours, j'ai l'impression de plus rien y comprendre. Puis en même temps, ben, je dis, mais c'est très bien. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Qu'est-ce que j'en ai compris ? Peut-être, c'est comme un puzzle. J'ai plein de pièces, mais je n'ai pas le cadre général et je ne sais pas très bien comment les placer. Comment est-ce qu'on met Israël ? Comment est-ce qu'on met la Russie, l'Iran, le... Oui, on dit, mais c'est... Comment ça peut former une image ? Comment le mystère de Dieu va s'accomplir ? J'aime beaucoup la géopolitique, mais l'écriture me permet, bon, en tout cas, il faut que je reste à distance. Genre, je disais, les nouvelles du monde, voilà, il y en a beaucoup qui passe, hein, je vais reprendre, blablabla. 70 ans d'infos, on n'est pas plus intelligent avec ça, ni plus renseigné, puisque les choses... En ce moment, on parle beaucoup... la Russie qui attaque l'Ukraine, bah, personne ne l'avait vu venir. Pourtant, le 7 octobre, le Hamas qui attaque... certains l'avaient vu, mais on ne les a pas crus. Certains avaient été témoins de signaux faibles et disaient là, ça clignote, attention. Quelle parole de Dieu, signaux faibles, sera importante dans ma vie, dans notre vie? Un petit texte dans le prophète Jérémie, au chapitre 15. Jérémie 15, le verset 16 à 21. À partir du verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas pendant que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Alléluia. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que la bonne nouvelle, l'évangile, est-ce que ça peut faire la joie de ma vie? Première année de vie chrétienne, 3-4 fois, j'ai cru que j'avais perdu ce lien spirituel avec Dieu. Puis je me suis dit, mais c'est pire que la mort. Parce que c'est comme une mort éternelle. Et là, voilà, il y a de la frayeur qui est descendue jusqu'au bout de mes pieds en me disant, mais comment je peux... Et puis, voilà, en relisant l'Écriture, on reprend confiance, on dit, voilà, Seigneur, si j'ai fauté, je te le confesse, et puis, voilà, pardonne mon péché, aide-moi à m'en sortir, à passer à autre chose. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Est-ce qu'il y a toujours de la motivation, de l'intérêt pour moi, pour la parole de Dieu? Est-ce qu'elle me rend à l'aise? Tout ce que l'on pratique les arts occultes, on a beaucoup de peine à lire l'Écriture. Premier jour de conversion, j'ai scellé dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je lirai ta parole jusqu'à mon dernier jour. Je refuse qu'il en soit autrement. J'ai toujours pu lire l'Écriture. Le jeune homme qui m'avait enseigné dans les choses occultes, quelques années après, il n'arrivait plus à lire l'Écriture. Il la cachait sous son lit, sous son matelas. Et il y retournait. L'Écriture dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Si l'Écriture n'est pas scellée dans nos vies, et pour qu'elle le soit, au quotidien, il faut être en amitié, en amour avec la parole. Retrouve ton premier amour. Est-ce que l'Écriture est toujours l'objet de mon amour ? On termine avec 2 Timothée, c'est un des grands textes clés chez moi, des grands textes clés de ma vie, pour l'inspiration, clé de l'inspiration. 2 Timothée 3, les versets 14 à 16. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est soufflé de Dieu. Jésus souffla sur eux, leur dit, recevez ma paix, recevez l'Esprit. Avec la paix et l'Esprit, on reçoit la parole, parole vivante. L'Esprit Saint ne peut pas être déconnecté de la parole de Dieu. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à l'Esprit Saint. Il faut que ce soit dans la ligne d'inspiration de choses. Dieu a soufflé dans des êtres humains. Et ça a donné ce texte. C'est plus que ce texte. Le judaïsme est appelé le peuple du livre. Le christianisme, je dirais, c'est le peuple parole de vie, parole vivante. Respect du texte, mais souffler un texte qui est renouvelé, qui est revisité, qui est vivant, une parole qui est vivante. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Enseigner, on veut bien. Convaincre, c'est déjà plus difficile. Corriger. J'aime pas la correction. Ça me rappelle tous mes souvenirs à l'école, 4 ans de pensionnat catholique. Correction, j'en ai eu pas mal. Donc aujourd'hui, je dis, Seigneur, aide-moi à anticiper pour éviter la correction. Ça n'empêche pas, voilà, que de temps en temps, on tire l'oreille, mais on ne peut pas tirer trop fort. La correction est utile. On a besoin d'être régulièrement un petit peu secoué, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Ouais, Seigneur, j'ai soif de ton instruction. Encore aujourd'hui, il y a des domaines où je pensais que je savais, puis finalement je m'aperçois que ce que je comprends du monde, tout n'est pas encore calé. On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, en attendant que ce mystère de Dieu s'accomplisse, merci de nous faire entrer dans cette pleine révélation de ta parole, au travers de cette parole faite chair, ton Fils, le Christ Jésus. Merci parce que l'amour que tu as pour lui, tu le déverses sur nous. Et merci parce que tu nous donnes ta parole qui est utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Seigneur, merci de nous aider à serrer ta parole dans notre cœur, dans notre esprit, et à avancer avec elle. Amen. Voilà, je vous laisse ce petit livre-là, L'Université de la Parole. C'est un peu ancien, mais c'est sympa.